a été déclaré infondé et donc invalidé. Le ministre de l'économie Nicolas Sarkozy vient d'annoncer l'ouverture du capital du groupe nucléaire Areva, une opération qui devrait être réalisée dès le premier semestre 2005 sur entre 35 et 40% du capital d'Areva. Tout de suite, nous allons à la Bourse de Paris.
La Bourse avec EasyJet, compagnie aérienne à tarif réduit en France et en Europe.
Alors, quelle nouvelle, Cédric Decoeur ?
Eh bien, le marché parisien fait preuve d'une belle fermeté depuis ce matin. Et si une fois encore, la fourchette de fluctuation reste modérée, eh bien le CAC 40 bute un petit peu sur le plafond des 3800 points, mais gagne tout de même 0,6% à 3792 points. Sur le marché d'échange, le dollar poursuit, lui, son effritement. L'euro cote en ce moment 1,2963. Voilà, je vous rappelle, le CAC 40 qui gagne 0,6%, il est à 3792 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Et puis les courses dans la première à Beaumont de Lomagne, combinaison gagnante du Quintet Plus, premier le 7, deuxième le 4, troisième le 6, quatrième le 14, cinquième l'As. Il est 14h04 sur France Inter, on retrouve Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre émission sur la guerre d'Espagne. Le jour viendra où vous comprendrez que la guerre d'Espagne était le champ de bataille d'une seconde guerre mondiale qui approche d'une manière inéluctable. Álvarez del Vallo, 10 janvier 1939. Depuis 65 ans qu'elle est finie, la guerre d'Espagne continue de hanter la mémoire des Européens. À cause des violences inouïes commises dans les deux camps et de la dimension internationale que lui ont donné les volontaires des brigades internationales et les interventions russes, italiennes ou allemandes, cette guerre civile fut aussi d'une certaine manière le laboratoire de la guerre qui allait ravager l'Europe quelques mois à peine après la victoire de Franco en 1939. Avant de s'affronter pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est en Espagne que les régimes totalitaires et les démocraties ont commencé à s'affronter à Badajoz, à Tolède, à Guernica, à Teruel, sur les rives de l'Ebre, et surtout dans ce qui fut la plus grande et la plus violente des batailles de la guerre d'Espagne, la bataille de Madrid en novembre 1936.
La bataille de Madrid se poursuit sans répit. Seul, le mauvais temps ralentit parfois l'ardeur des adversaires. Après une préparation d'artillerie, l'infanterie des nationaux, appuyée par l'aviation et les chars d'assaut, part à l'attaque. Aspect de désolation des faubourgs de Madrid.
Madrid, corazón de España, date convulsos de fiebre.
Madrid, cœur de l'Espagne qui bat avec fièvre. Hier déjà ton sang bouillait, aujourd'hui il bout davantage. Il ne faut pas t'endormir, car quand tu voudras t'éveiller, l'aube ne pointera pas. Madrid, n'oublie pas la guerre, n'oublie jamais qu'en face, tes ennemis te guettent, la mort dans les yeux. Des vautours planent dans ton ciel, prêts à se jeter sur tes toits de tuiles rouges, tes rues, ton peuple courageux.
Bartolomé Benassar, bonjour.
Bonjour.
C'était le poète et peintre espagnol Rafael Alberti pendant la plus grande bataille peut-être de la guerre d'Espagne, la bataille de Madrid qui commençait fin octobre 1936, trois mois à peine après le déclenchement de la guerre civile dont nous avons déjà commencé à parler avec vous hier. Une bataille de Madrid qui était décisive bien sûr parce que si la capitale était tombée entre les mains de Franco, à ce moment-là, la guerre d'Espagne était finie trois mois et non pas trois ans après son déclenchement.
Absolument. Cette bataille a duré d'ailleurs pendant plusieurs mois, puisqu'on peut considérer qu'elle a duré jusqu'à mars 37, c'est-à-dire jusqu'à Guadalajara, jusqu'à l'échec de Guadalajara, échec des franquistes bien entendu. Et on peut considérer qu'en effet c'est la grande victoire de la République. C'est celle qui a fait croire que la République pouvait gagner la guerre, et cela d'autant plus que cette bataille a, pour les républicains, a bénéficié de l'apport des premières armes qui avaient été achetées aux Russes et de l'arrivée des brigades internationales.
Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, en mettant 3 mois avant d'attaquer Madrid, avec des forces, une armée régulière, là je parle de celle de Franco, pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps? Pourquoi a-t-il traîné? Et je sais qu'il y a eu une bataille avant Madrid, dans laquelle il a perdu pas mal de temps, qui était la bataille pour Tolède, qui était plus symbolique qu'autre chose. C'était les cadets de l'Alcazar de Tolède, derrière le général Moscardo, qui se barricadaient, assiégés depuis des semaines par les Républicains. Et là, Franco vient à leur secours, au lieu d'attaquer Madrid très vite.
Oui, absolument. D'ailleurs, on considérait à la fin septembre 36 que Madrid allait être enlevée, allait être emportée par les troupes franquistes, et il y avait même des correspondants de presse qui avaient déjà préparé des communiqués dans lesquels ils racontaient...
La victoire de Franco.
Voilà. Et contrairement à l'avis de plusieurs de ses généraux, Franco va se détourner de Madrid, il est à Maqueda, il est à 60 kilomètres à l'ouest de Madrid, pour aller délivrer Tolède, qui est assiégée par les Républicains, et où, comme vous venez de le dire, sont retranchés les cadets d'Alcazar, présidés par ou dirigés par le colonel Moscardo.
Alors c'est donc uniquement le 31 octobre 1936 que les 25 000 hommes de l'armée d'Afrique, sous les ordres du général Francisco Varela, arrivent devant la capitale, où le gouvernement a eu le temps de préparer justement une résistance qui a été farouche pendant plusieurs mois à Bartolomé Médici.
Voilà, c'est cela. Franco donc a perdu l'occasion, pour des raisons qui le concernent personnellement, pour favoriser sa carrière, peut-on penser. Et donc l'armée franquiste arrive devant Madrid, elle croit qu'elle va pouvoir l'enlever, et elle se heurte à une résistance farouche qui est facilitée ou qui est appuyée par des colonnes qui arrivent d'Aragon, et surtout par l'arrivée des premiers brigadistes qui ont été regroupés à Albacete et qui ont été acheminés sur Madrid, où ils arrivent en même temps que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'armes soviétiques. Et ce sont ces premiers brigadistes qui vont apporter d'abord, qui vont aussi avoir une importance symbolique, parce qu'ils vont démontrer que, en quelque sorte, les Espagnols républicains ne sont pas seuls et qu'ils bénéficient de l'appui d'un certain nombre de gens à travers le monde. Car ce qui a distingué le plus, finalement, les brigades, c'est leur caractère plurinational. Ça, puisque plus de 50 nationalités ont figuré parmi les brigades.
Mais la majeure partie était française. C'est à eux d'ailleurs que s'adressait une des figures les plus célèbres du camp républicain, Dolores Ibaruri, la Passionaria.
Je suis très émue de la démonstration de solidarité du peuple français envers le peuple espagnol. Que le peuple français n'oublie pas que la lutte soutenue par le peuple espagnol, c'est la lutte pour la paix, c'est la lutte pour la liberté, c'est la lutte pour la démocratie.
Et vous entendez une des chansons les plus célèbres de la guerre d'Espagne, une chanson républicaine, Tu sais mon adresse, hein, c'est au moment de la bataille de Madrid, de Bartolomé Benassar, avec cet apport donc énorme, vous le disiez, des brigades internationales, qui, elles apparaissent dès le mois de juillet, août 1900, enfin, elles se forment dans leurs pays respectifs. Qui a organisé cette mobilisation, justement, de volontaires pour se battre aux côtés du gouvernement légal de Madrid?
C'est surtout le Parti communiste. C'est surtout le Parti communiste, même s'il n'en a pas revendiqué, en quelque sorte, explicitement et officiellement, la direction. Mais, d'autre part, on a calculé qu'à peu près 56-57% des brigadistes étaient effectivement communistes, ou en tout cas sympathisants très affirmés. Alors, ce sont des gens qui viennent de tous côtés. On a des Américains, il y a un bataillon Abraham Lincoln. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il y avait aussi nombre d'Allemands et d'Italiens anti-nazis et anti-fascistes, plusieurs milliers. Et c'est vrai, une minorité dominante, si on peut ainsi s'exprimer, de Français, peut-être 12 000 environ sur les 35 000 des brigades.
Là, il y avait aussi quelques grands intellectuels, d'ailleurs de plusieurs pays. Il y avait Malraux, bien sûr, mais oui. Il y avait aussi beaucoup de journalistes, Hemingway,
oui, Hemingway qui n'a pas été un combattant des brigades, mais oui. Qui était du côté de la Républicain, et qu'on retrouve dans les batailles à Belchite, et on le retrouve à Belchite, on le retrouve à Teruel, on le retrouve sur l'Ebre, qu'il sera un des derniers à repasser.
Ce qui est assez extraordinaire, vous évoquiez Bartolomé Benassa, et c'est en ça qu'on peut dire que la guerre d'Espagne n'était pas seulement une guerre civile espagnole. Vous évoquiez donc la présence de ces Allemands, de la brigade Teilmann, d'Allemands antifascistes, de ces Italiens, de la brigade Garibaldi, Italiens antifascistes, qui se retrouvent notamment, justement, à Madrid ou à Guadalajara, en face d'Italiens qui se battent de l'autre côté. C'était une guerre civile européenne aussi,
d'ailleurs,
des égards.
Vous avez raison de signaler Guadalajara, parce que justement, les brigadistes italiens se sont adressés à leurs compatriotes par des porte-voix en italien en leur disant pourquoi vous venez faire la guerre à des travailleurs qui ne vous demandent rien.
Et cela malgré les appels à la non-intervention en Espagne que lance Léon Blum, à l'époque chef du gouvernement du Front Populaire Français, en août 1936.
La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité, mais s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes.
Et c'était Léon Blum préconisant en 36 l'abstention, la non-intervention en Espagne. Ça peut surprendre Bartolomé Benassar. Léon Blum est le chef d'un gouvernement de front populaire, comme celui qui a été élu en Espagne et contre lequel se sont dressés justement les nationalistes de Franco. Et il refuse, il ne souhaite pas l'intervention de l'État français et d'autres États. D'ailleurs, il préconise la non-intervention en Espagne. Il faut peut-être expliquer pourquoi.
Oui, alors là, ce qui, si vous voulez, est révélateur, c'est l'étude jour par jour de la chronologie. Entre le 18 juillet et le 8 août. 8 août, qui est le moment où est décidée la non-intervention. Au début, Léon Blum est tout à fait décidé à intervenir au moins par des fournitures d'armes que lui réclame d'ailleurs le gouvernement républicain. Et il a un traité qui a été signé en 35, qui n'a pas été signé par lui, qui peut lui permettre de le faire. Mais très vite, il va rencontrer des oppositions. D'abord, celle de l'Angleterre, et ça c'est très important. Les Anglais font savoir qu'ils sont tout à fait rebelles à toute forme d'intervention.
Et il veut ménager l'alliance anglaise.
Voilà, et les Français estiment absolument qu'il faut absolument ménager l'alliance anglaise. C'est ce que disent Charles Corbin et Alexis Léger, qui représentent le Quai. Bon, et donc il y a une très forte pression des Anglais. Deuxième, et les Anglais réussissent à convaincre plus des éléments du gouvernement, et notamment les ministres radicaux. Delbos en particulier, Daladi, etc.
Parce que les radicaux étaient, il ne faut pas l'oublier, faisaient partie du Front Populaire. C'était des alliés des communistes et des socialistes.
Oui. Alors que les communistes soutenaient, mais ne participaient pas au gouvernement. Mmh. Et la non-acceptation des radicaux à une intervention est fortifiée par les divisions du pays. Car en France, il y a une campagne de presse. Une campagne de presse pour qu'on se tienne à l'écart de la guerre. Il faut ajouter que la France de 1932 est encore... de 1936, pardon, est encore sous le coup de la guerre mondiale et des 1,5 million de morts.
Bon, oui, au fond, il craint peut-être que ce qui se passe en Espagne, se produise aussi en France.
Il y a un risque de guerre civile en France.
Alors, il y a plusieurs pays qui se moquent complètement de l'intervention et qui vont intervenir en tant qu'État auprès de chacun des deux camps. D'abord, du côté républicain, il y a l'URSS, la Russie, Bartolomé Benassar, qui va envoyer, ça va compter à Madrid, qui va envoyer des chars, qui va envoyer des avions et des pilotes.
Oui, bien entendu, l'URSS va d'emblée considérer que les décisions de non-intervention sont en quelque sorte détournées par l'Allemagne et l'Italie, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, elle y voit un moyen de tester son propre matériel de guerre, son matériel up-to-date, si on peut dire, et en même temps, il ne faut pas oublier qu'elle a joué, elle a exercé un véritable chantage sur le gouvernement républicain pour se faire envoyer l'or de la Banque d'Espagne, car l'Espagne a été le quatrième pays du monde en réserve d'or.
Elle était derrière aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué hier quand on parlait des violences, la liquidation probablement, que l'URSS était responsable, des trotskistes par les communistes espagnols.
Ah, absolument. C'est-à-dire que l'URSS voulait éliminer avant tout les anarchistes. Et pour éliminer les anarchistes, elle a commencé par éliminer les trotskistes, qui étaient évidemment les adversaires par excellence, mais qui n'étaient pas encore une très grande puissance. Néanmoins, qui étaient puissants en Catalogne, sous les espèces du Poum. Et par conséquent, l'URSS...
c'était le parti ouvrier d'unification marxiste,
exactement.
Le parti trotskiste.
Exactement. Par conséquent, l'URSS va éliminer progressivement à la fois le Poum
Et les anarchistes, et elle va le faire grâce aux communistes espagnols. Et si les communistes espagnols ont trouvé une puissance qu'ils n'avaient pas, c'est à cause évidemment de l'influence de l'armement soviétique qui arrive en contrepartie de l'or.
Alors cela dit, l'intervention des États, enfin la plus connue, la plus spectaculaire, la plus importante, les interventions étatiques aux côtés cette fois-ci de Franco, c'est évidemment l'Italie et l'Allemagne. L'Italie d'ailleurs, dès le début, elle envoie tout de suite ce qui a permis entre autres aux troupes du Maroc d'arriver en Espagne, elle envoie des avions et elle va envoyer aussi bientôt des forces armées, 48 000 hommes que l'on va retrouver dans la prise de plusieurs villes. Et à Guadalajara, les Italiens, bien sûr, par sympathie pour le régime franquiste et pour Franco, avec Mussolini, bien sûr.
Oui, c'est le fameux CTV, Corps de Troupes Volontaires Italien, qui a joué un rôle très important dans certaines des victoires franquistes, en tout cas à Malaga et à Santander. Alors, entre-temps, il y a eu effectivement l'échec de Guadalajara, qui est dû en partie à la météorologie, bon, ça c'est une autre affaire, et qui est dû aussi en partie au rôle à la fois des miliciens espagnols gonflés par leur succès sur le front de Madrid et par le rôle des brigadistes.
Et puis, autre intervention, alors là, importante, notamment techniquement, c'est la Légion Condor, c'est-à-dire l'intervention de l'Allemagne. Hitler offre aussi, lui aussi, des avions, du matériel. Là, il s'agit moins, enfin, il s'agit d'un soutien politique, bien sûr. Il y a de la sympathie pour le régime franquiste ou pour Franco, mais aussi d'une aide technique très utile pour l'avenir. Au fond, on peut dire que les Allemands ont testé en Espagne le matériel qu'ils allaient utilisé au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument, et je dirais même qu'à mon avis, en tout cas, c'est la Légion Condor, la participation à la Légion Condor est plus importante que la participation italienne, quoiqu'elles soient beaucoup moins nombreuses, mais les Allemands ont trouvé le moyen de faire tourner leurs pilotes sur 6 000 de permanents, ils en ont formé 16 000 de cette façon-là. Ils ont aussi mis au point leurs appareils grâce précisément aux leçons du terrain, et notamment, par exemple, les blindages des chars, et aussi la tactique, puisque l'utilisation des chars comme élément de rupture, qui va être si important dans l'offensive guderienne, c'est là que ça a été testé.
Et puis surtout, l'aviation avec le premier bombardement terroriste de l'histoire, c'est-à-dire à Guernica, en avril 1937, Bartolomé Benassar, 2000 morts, surtout des civils, ce qui a choqué le monde entier, hein, ce bombardement d'une ville basque.
Oui, il avait d'ailleurs été précédé par celui de Durango, une autre ville basse, mais ça avait fait moins d'effet, puis ça avait été moins important. Alors, en effet, Guernica, où on a brandi des chiffres qui oscillent entre 1000 et 4000, quand ils n'ont pas été réduits à 12 par certains commentateurs franquistes, bon, Guernica a fait une énorme impression, parce que c'était une petite ville, parce que c'était aussi une ville sainte dans une certaine mesure, c'était la ville emblématique du Pays Basque. Alors, ça a fait donc un effet extraordinaire, et ça a fait d'autant plus d'effet que, pendant un certain temps, les franquistes ont contesté le fait que Guernica ait été détruit par eux, et on pensait que ça avait été fait par les républicains.
Il disait même, on va l'entendre, il disait même que c'était effectivement les Basques, ça c'était un effet de la propagande de franquiste qui a été utilisé abondamment par les nationalistes pendant toute la durée de la guerre, le fait que Guernica n'aurait pas été bombardée par les Allemands, et puis bien sûr une propagande visant à encenser le général Franco.
Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista.
Certains journaux ont prétendu que cette malheureuse ville avait été détruite par l'aviation nationaliste. Les bidons d'essence trouvés près de l'église montrent que des groupes d'incendiaires ont dévasté cette ville pittoresque, berceau des droits basques. Pendant que les soldats du généralissime libèrent l'Espagne, ces autres soldats, humbles et laborieux, donnent à la patrie son pain quotidien. Fertilisé par le sang des héros, le sol de l'Espagne est le symbole d'un pays qui donne le pain et la justice, un pays voulu par le caudillo.
Alors le caudillo, bien sûr, c'est le chef, l'équivalent du Führer en Allemagne ou de Dutch en Italie, c'est bien sûr le général Franco. Pendant cette guerre, où vous le dites, Bartolomé Benassar, on a utilisé la propagande comme on ne l'a peut-être jamais fait encore dans le passé. Écoutez, les républicains aussi l'utilisaient pour tenter de débaucher les soldats nationalistes et de galvaniser leurs troupes.
Ils appellent à les rejoindre les Espagnols que le fascisme a trompés. Ne permettez pas que les nazis soient les maîtres de l'Espagne. Passez dans nos rangs avec les armes.
Veillez,
Notre combat représente les valeurs universelles de paix, de travail, de justice. C'est dans cet esprit que l'on part au combat et pour défendre ces principes. Catalans, vive la liberté.
Vous entendez le passage de l'Èbre, une chanson très belle du camp républicain, le passage de l'Èbre, cette rivière espagnole qui fut le lieu d'une autre grande bataille de la guerre d'Espagne, qui a duré plusieurs mois en 1938. Là, l'enjeu aussi était important. Il s'agissait pour Franco de tenter de couper Barcelone de Madrid et pour les républicains, qui d'ailleurs ont réussi à l'empêcher pendant un certain temps, de garder le contact.
Ça a été une bataille gigantesque et qui a opposé cette fois seulement des Espagnols. Il n'y avait pratiquement plus de brigadistes, il n'y avait plus d'Italiens, ou presque plus, puisqu'ils avaient été rappelés en même temps que les brigadistes. Donc c'est presque uniquement des Espagnols les uns contre les autres. C'est une bataille absolument gigantesque, héroïque, il faut bien le dire, des deux côtés. Et où les uns, comme vous venez de le dire, essayent de couper le front républicain en deux, et où les républicains essayent de tenir dans l'espoir que le déclenchement de la guerre mondiale changerait complètement la donne internationale.
Oui, parce qu'on s'y attend maintenant, voilà, à ce moment-là.
Voilà, on s'y attend.
Alors, ce qu'il y a de tragique, c'est que cette bataille de l'Èbre, malgré l'héroïsme dans les deux camps, mais aussi du côté républicain, parce qu'il réussit à contenir, cette bataille n'empêche pas le camp républicain de se retrouver pratiquement isolé en 1938. Déjà, nous sommes au moment de Munich, etc. Il est question que la Grande-Bretagne et la France reconnaissent le régime de Franco, qui se retrouve pratiquement seul quand Barcelone, puis Madrid tombe, Bartholomé Benassar.
Oui, c'est-à-dire que après la défaite de l'Èbre, il n'y a plus d'espoir, et puis alors, il y a au sein même du camp républicain une nouvelle guerre civile qui éclate avec le coup d'état du général Casado. C'est-à-dire que ce qui s'était déjà produit en 1937 se reproduit à la fin de la guerre, et naturellement, c'est en quelque sorte une pour la République mourir deux fois, comme d'ailleurs certains l'ont dit. Nous sommes vaincus nous-mêmes tout en étant vaincus par les autres. Hein. C'est assez poignant ce sentiment d'avoir au fond gâché ses chances, alors qu'on finalement à un certain moment on pouvait penser qu'on pouvait tenir la victoire.
C'est ainsi donc que Barcelone tombe entre les mains de Franco en 1939, peu de temps avant que Franco et les franquistes arrivent à Madrid le 27 mars 1939 et annonce la fin de la guerre le 1er avril.
Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie. Burgos, 1er avril 1939, année de la victoire.
El generalísimo Franco.
À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. Italiens et 2500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique, où la France est représentée par le maréchal Pétain.
Et c'était la fin de la guerre le 1er avril 1939, en présence, on l'a entendu, du maréchal Pétain, qui sera premier ambassadeur de France à Madrid, sous Franco. Et puis aussi avec, on l'a vu, une présence allemande. Alors ça, c'est le début aussi, c'est pas la fin de la guerre. Vous le dites dans votre livre, Bartholomé Benassar, votre livre s'appelle « La guerre d'Espagne et ses lendemains ». Et les lendemains ont été terribles. D'abord, bien sûr, la purge de tous les républicains qui restent en Espagne, et puis l'exil de plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, pour beaucoup qui vont en France, qui vont se retrouver dans des camps.
Oui, de plusieurs centaines de milliers peut-être même, puisque c'est entre 450 et 500 000. Alors il y en a qui rentreront, mais il restera au moins 250 à 280 000
espagnols exilés, la plus grande partie en France, quelques autres au Mexique, voire quelques-uns en URSS aussi, quelques milliers. Bon. Et puis, il y a l'exil et l'intégration lente, difficile, qui commence par les camps, puis qui ensuite...
Des camps d'hébergement.
D'hébergement, si on peut dire, les camps de concentration. D'hébergement pour les civils, de concentration pour les militaires. Puis, peu à peu, malgré tout, ces camps deviennent... vivables, si je puis dire, ils le sont guère au départ. Et puis, il y a les civils qui sont dispersés dans l'espace français. Avec, à la faveur de la guerre mondiale, cette fois, ces Espagnols vont entrer dans l'économie française, ils vont jouer un rôle important. Et puis, un nombre non négligeable d'entre eux vont aussi entrer dans la résistance ou dans les armées.
Et on les retrouvera.
Dans les armées françaises.
Oui.
On les retrouvera notamment
dans la libération de Paris. Avec, les premières entrées dans Paris avec drones.
Dans les chars de la
libération, c'est extraordinaire. Une belle revanche, quand même, sur leur histoire. Même si, pour eux, pour leur pays, c'est une dictature de 40 ans aussi qui commence, Bartholomé Benassar.
C'est exact. Ouais.
Et alors, un bilan énorme. Est-ce qu'on peut chiffrer à peu près le nombre des victimes, des morts de cette guerre d'Espagne?
Je crois que les chiffres ont avancé, ont été plusieurs fois rectifiés. On a parlé du million de morts, on est revenu sur ce chiffre qui était excessif, peut-être 300 ou 400 000. Mais il y a eu aussi alors les victimes des répressions, des deux terreurs, la terreur rouge et noire et la terreur blanche, qui se sont à peu près équilibré pendant la guerre, et ensuite la terreur franquiste qui, après la guerre, n'est-ce pas, continue une répression qui a au moins concerné environ au moins 100 000 personnes, n'est-ce pas, ce qui est un chiffre énorme pour une répression une fois la guerre terminée.
Peut-on dire, comme le disait Alvarez del Vallo en janvier 39, c'est-à-dire avec prémonition, il était le représentant du gouvernement républicain espagnol à la SDN à Genève, que au fond c'était déjà l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale?
Oh, dans une large mesure, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire l'essai des tactiques et des matériels de guerre prouve bien qu'en effet, il y avait cette projection sur un avenir qui allait être un avenir à la fois sanglant et immédiat.
Merci Bartholomé Benassar. Cette guerre d'Espagne, dont vous lui consacrez un livre dont je recommande la lecture, La guerre d'Espagne et ses lendemains, qui vient de sortir chez Perrin. Vous pouvez retrouver cette référence en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1 34 centimes.